On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht
gemacht. Calimera, Matheno, que Milao, Gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Aditza volbim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Virginia et Elodie.
Bonjour Elodie.
Bonjour Virginia.
De qui allons-nous parler pour ce nouvel épisode d'Écoute Facile ?
Je vous propose de vous intéresser aux académiciens et aux animaux. Écrivains ou scientifiques, les académiciens sont nombreux à avoir écrit sur nos amis les bêtes.
Et qui souhaitez-vous nous faire connaître en particulier aujourd'hui ?
Eh bien, je vous propose de faire la connaissance de Maurice Genevoix de l'Académie française.
Mais c'est un écrivain de guerre, me semble-t-il.
Oui, Virginia, Maurice Genevoix s'est fait connaître en publiant en 1916 « Sous Verdun ». Il retraçait ainsi les débuts de la Première Guerre mondiale. Il avait 24 ans à l'époque.
C'est d'ailleurs le début d'une longue carrière d'écrivain, n'est-ce pas ? Mais Maurice Genevoix n'écrit pas seulement sur la guerre, il s'intéresse aussi à la nature.
C'est exact. Maurice Genevoix s'intéresse au rapport entre l'homme et la nature. Il mêle à la fois poésie et réalisme. Il connaît parfaitement les animaux qui lui sont une grande source d'inspiration.
Des exemples, Élodie, des exemples ?
Bien sûr, Virginia. Maurice Genevoix a publié des contes et des récits animaliers. Je vous propose de lire avec vous quelques extraits.
Voici l'hirondelle qui fit le printemps.
Dans ce conte, Claire, une petite fille, habite dans la forêt avec ses parents. Claire passe ses journées à jouer avec les oiseaux, mais un jour d'automne, l'enfant est gravement malade.
« La seule solution pour la guérir, c'est le soleil »,
dit le docteur aux parents. Comment faire à l'approche des sombres jours d'hiver ? Tout à coup, une voix menue et gaie se fait entendre.
« Ici, ici, je suis ici !»
chante la petite voix si gaie. C'est Friseline l'hirondelle. Quelques-unes de ses sœurs sont déjà parties. Mais elle, Friseline, est restée parce que Claire est malade. Elle a écouté ce qu'a dit le docteur. Et maintenant, de sa petite voix confiante, elle chante en se penchant vers l'âtre.
« Je suis ici, n'ayez plus de soucis. Je suis ici, n'ayez plus de soucis. Je suis ici, n'ayez plus de soucis. »
Et aussitôt, bien vite, elle vole vers Tape-le-Pivert, Garu le rossignol et Tirli l'alouette huppée. Et elle leur dit quelque chose à l'oreille, à l'un, à l'autre, à tous et à chacun. Et les oiseaux secouèrent leurs petites têtes. Garu son chaperon gris, Tape son beau bonnet rouge et Tirli sa huppe huppée.
Oui, 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 nous avons compris. Oui, 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 nous avons compris.
L'hiver cependant arrivait. Il dépouillait les arbres de la forêt, leur arrachait leurs dernières feuilles et neigea sur leurs branches nues. Mais devant la maison, le grand chêne de la clairière gardait sur lui toutes ses feuilles vertes. C'est que Friseline l'en avait supplié.
« Retiens tes feuilles, chêne de la clairière. Il le faut absolument pour que notre petite amie guérisse. »
Et le chêne lui obéit. Pendant ce temps, Tape le pivert, perché sur la plus haute branche, guettait les nuages qui passaient dans le ciel. Lorsque l'un d'entre eux venait à s'approcher, tout gris et tout gonflé de pluie froide, Tape volait au-devant de lui en poussant son cri de pivert.
« Pluie, 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 par ici, par ici. Pluie, 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 par ici, par ici. »
Et il faisait un grand détour, et le nuage le suivait dans son col, s'en allait loin de la clairière, en laissant le ciel bleu sur le chêne et la maison. Et que faisait Tirli l'alouette ? Elle avait disparu dans le ciel, un petit point haut dans le ciel, encore plus haut, qui s'était évanoui. C'est qu'elle montait par-dessus tous les nuages, montait, montait vers le soleil.
« Courage, Tirli ! Claire est toujours pâle et dolente, elle a besoin d'un rayon de soleil. » Il le lui faut absolument pour guérir et reprendre de la couleur,
lui avait dit Friseline. Et Tirli, jusqu'à perdre haleine, montait au pays des rayons, choisissait le plus beau, le plus chaud, le plus doré, et le rapportait dans son bec.
Oh, disait Claire en voyant le rayon sur son lit, comme il brille, comme il est doux et chaud.
Et elle souriait en plongeant ses mains pâles dans le chaud rayon de soleil. Ainsi passa le méchant hiver sans pouvoir approcher un seul jour, une seule minute de la maison où veillait Friseline l'hirondelle. Et un matin, un beau matin, le vrai printemps fut de retour. Ce matin-là, Claire s'éveilla toute rose, bâilla et s'écria.
Ah, oh, j'ai faim.
Et il but le bon lait de Blanchette la chèvre dans un bol à fleurs. Et Friseline et tous les oiseaux, Tape le Pivert, Garu le rossignol, Tirli l'alouette, mais aussi les pouillots, les loriots, les mésanges et les rouges-gorges, les fauvettes et les pinsons, tous les oiseaux de la forêt voltaient joyeux autour de Claire, lui caressant le visage de leurs ailes et chantaient à plein gosier.
Elle est guérie, notre petite amie. Elle est guérie, guérie, guérie. Elle est guérie, notre petite amie. Elle est guérie, guérie, guérie.
Voici maintenant l'histoire de Monsieur Saul, du chat Braouf et de Ricky Martin.
Dans ce conte, Maurice Genevoix nous explique avec une poésie enfantine la naissance du poisson-chat. Braouf est un chat voleur. Il chipe à Monsieur Saul les poissons tout juste pêchés qu'il conserve dans son panier. Un jour, toujours avide de manger plus de poissons, Braouf se met en quête de prélever directement son repas dans un banc de poissons au bord de la rivière. Il y arrive grâce à ses pattes voleuses. Mais tout à coup, patatras, Braouf tombe à l'eau.
Le chat nageait au milieu de la rivière. Il nageait tant sombre et furieux que tous ses poils noirs se collèrent, qu'il devint gluant et luisant. Et ses pattes se collèrent, s'aplatirent et devinrent nageoires. Et sa queue flottante s'aplatit, claqua sur l'eau comme une queue d'anguille. Mais ses moustaches solides, bien plantées, se hérissaient toujours de chaque côté de son museau de chat. Il garda aussi ses dents fines et pointues, et même ses griffes, ou plutôt deux petits poignards qu'il cacha sous ses nageoires de devant, là où étaient ses pattes griffues. Tant et tant il nagea qu'il devint le poisson-chat, sombre et furieux, toujours avide de petits poissons frais vivants. Et les ablettes et les goujonneaux se sauvent et sautent sur la rivière quand il louvoie entre deux eaux. Ainsi plongea Braouf, silencieux, dans l'eau profonde. Ces deux extraits sont donc des contes accessibles aux plus jeunes. D'ailleurs, dans chacune de ces histoires, Maurice Genevoix s'adresse à une petite fille imaginaire qu'il appelle Maminou, n'est-ce pas, Élodie ?
Oui, tout à fait, Virginia. Mais Maurice Genevoix a également écrit de nombreux romans pour les plus grands, comme Rabolio. Il a reçu un grand prix littéraire français en 1925 pour ce livre, le prix Goncourt. Un autre livre de Maurice Genevoix est considéré par certains critiques comme le plus abouti. Il s'agit de La dernière harde. La dernière harde raconte l'histoire d'un chasseur et d'un jeune cerf. Tout d'abord, le chasseur sauve le cerf. Ainsi, le cerf poursuit une vie haletante dans la forêt. Mais dans un second temps, le chasseur reprit son instinct premier et finit par abattre la bête. Le cerf s'appelle le pèlerin. Écoutez plutôt.
Le pèlerin brame une dernière fois. Bondit vers le buisson avant que la biche ne s'éloigne. Un jet de feu lui brûle les prunelles. Le tonnerre du fusil décroît au fond de ses oreilles, s'étouffe dans le grondement du sang dont le flot lui emplit la gorge et lui couvre les yeux d'un voile rouge. Il est tombé dans le taillis. Ses jambes ont un dernier sursaut, s'étirent longues sur les feuilles mortes. Enfin, s'affaisse, à jamais immobile. C'est le dernier. Le tueur veut le toucher pour être sûr qu'il est bien mort, qu'il l'a tué. Il le laissera là où il est tombé. Sa vraie faim, l'âpre faim qui l'a si longtemps tourmenté, il vient de l'assouvir avec ce dernier coup de feu. À chaque fois, notre auteur a donné une large place aux animaux dans ses écrits, n'est-ce pas, Élodie ? On parle d'ailleurs du bestiaire de Maurice Genevoix.
Tout à fait, Virginia. Et Maurice Genevoix aimait tellement les animaux qu'il les a également peints. Certains de ses livres sont agrémentés des propres dessins de l'écrivain.
Si vous lisez les ouvrages de Maurice Genevoix, tendez bien l'oreille. Le bruissement des feuilles n'est peut-être pas celui des pages que vous tournez, mais celui d'une biche à l'oreille du bois. À bientôt, Élodie.
À bientôt pour un prochain Écoute Facile autour des académiciens et de nos amis les bêtes.